Bonjour à tous et bienvenue dans LV Talk, le podcast d'Helvétie Environnement qui vous parle d'environnement et de solutions durables. De la graine à l'assiette, l'expression est utilisée par notre invité et lui colle parfaitement à la peau. Maria Rita Malès est la fondatrice de Swiss Food Academy, association née à Genève en 2017 et qui est au service du bien manger. Elle sensibilise la population locale et les familles à une alimentation saine et durable. Bonjour Maria, merci de votre présence et bienvenue sur LV Talk.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Avec plaisir. Je lisais pas plus tard qu'hier qu'un enfant sur 6 en Suisse est en situation de surpoids. Comment on explique ce chiffre ?
Tout simplement parce que notre société a quand même pas mal évolué sur ces dernières décennies. Nous, ce qu'on constate, c'est que les enfants actuellement sont quand même assez déconnectés en fait, de leurs assiettes. Les enfants ne savent pas reconnaître les fruits et les légumes, surtout les légumes. D'où ils viennent, l'acheminement.
Je reprends une de tes expressions que j'ai entendue à la RTS, c'est « D'où vient la tomate, de la COP et de la Migros », c'est ça ?
Ouais, en fait, tout ça, ça vient d'il y a quelques années en arrière. J'ai été confrontée en fait à cette situation moi-même avec mon fils, voilà, qui est né il y a 17 ans. Et puis lors d'un anniversaire d'enfant où j'avais des enfants entre 10 et 12 ans, là, j'étais assez étonnée de voir en fait que j'avais fait des gâteaux moi d'anniversaire et on m'avait dit mais pourquoi tu les fais ? Tu sais, il y a des gâteaux tout prêts, il y a la Forêt Noire à la Migros. Oui, c'est vrai. Sauf que je voulais faire plaisir à mon fils, aux enfants qui étaient là, et je voulais faire moi-même mes propres gâteaux. Ça m'a un peu attiré l'attention, et puis j'ai commencé à leur poser des questions. Mais vous pensez que les fruits, les légumes...
Ça vient d'où ?
Bah, COP ou Migros. Ça a été un peu un déclic. Et puis c'est quelque chose qui est vrai. Et si en fait on ne les confronte pas à l'environnement, en fait, à ses fruits, à ses légumes, à ses produits, d'où ils viennent.
Ils ne savent pas, tout simplement.
En fait, ils ne le savent pas. Je pense que vraiment, cette problématique de la déconnexion est très importante et ce qui explique que voilà, le rapport qu'ils ont à l'alimentation peut être un peu problématique. Des maladies peuvent survenir, comme l'obésité, le diabète, des goûts qui sont aussi sélectifs. Je mange ceci, mais ça, je ne le veux pas. Vraiment, cette déconnexion, pour moi, c'est quelque chose de très important. Et puis après, on ne peut pas cacher le fait que le marketing publicitaire joue un grand rôle en fait dans notre société. Et voilà, il y a des produits qu'on met en avant avec des très beaux designs. Nos enfants sont attirés par ces produits-là. Malheureusement, beaucoup de ces produits-là
ne sont pas forcément
une grosse teneur en sucre, en sel. Forcément, nos enfants sont un peu victimes de tout ça.
Victimes de ce marketing publicitaire. Et tu ne penses pas que finalement ces enjeux-là sont pas assez bien expliqué par les médias ou porté par les autorités ?
Peut-être qu'il manque, et c'est peut-être là où Swiss Food Academy en fait, a fait ce constat-là au moment où on a lancé la structure, c'est ce côté très interactif. C'est-à-dire prendre le temps, accompagner les gens sur voilà, ce que c'est en fait bien manger.
Bien manger, ouais.
Qu'est-ce qu'il y a dans les assiettes ? Comment le faire ? Nous, ce qu'on se rend compte, c'est effectivement trop d'infos amène des fois à par où je commence. En fait.
Par où je commence et quel est le vrai du faux finalement en fait ?
Quel est le vrai du faux et puis comment on fait en fait ? Par où je commence, comment je fais ? C'est bien gentil tout ça, mais moi j'ai besoin d'un peu plus de méthode.
Concret, ouais.
Et tout ça, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, changement de société. On est dans des sociétés où tout va vite. La cellule familiale a énormément changé. Avant, les deux parents... Peut-être les choses étaient un peu plus claires. Maman restait plus à la maison, les enfants allaient moins en restauration scolaire, les repas se passaient plus
à la maison,
en famille, à des heures peut-être qui étaient plus...
Normées, entre guillemets.
Normées, exactement. Il y avait un planning, en fait, familial. De nos jours, tout est un peu disloqué, on va vite, des gens mangent sur le pouce, ils prennent un sandwich. Et je pense que nos enfants sont aussi un peu tributaires de ce changement sociétal, remettre un peu plus d'interactivité, les remettre un peu plus acteurs de leur assiette par des actions très concrètes qu'on met en place tout au long de l'année. C'est déjà en fait une bonne manière d'expliquer ces concepts,
c'est-à-dire
par la pratique.
Par la pratique et le fait qu'ils soient au cœur du processus pour
exactement.
Vraiment faire changer un peu les mentalités et les choses.
Il faut comprendre leur environnement et puis leur quotidien pour leur apporter des réponses à leurs besoins.
Et comment Swiss Food Academy vient justement apporter cette information ? Quelles sont un peu vos pratiques pour les gens qui nous écoutent ?
On s'est dit que l'alimentation, qui est quand même quelque chose de très émotionnel. On travaille avec beaucoup de psychologues qui sont spécialisés en social et affectif. En fait, l'alimentation, c'est quand même la seule chose qu'on ingère, qui nous fait vivre, mais qui nous procure beaucoup d'émotions, que ça soit du plaisir comme du dégoût, du rejet ou voilà. On part du fait que l'enfant...
Prendre du plaisir.
On doit lui apporter aussi des outils pédagogiques qui apportent beaucoup d'émotions, mais dans le bon sens, pour se sortir un peu de ses freins parfois qu'il peut avoir face à son assiette. Il y a différentes façons de le faire, notamment dans les quartiers. On travaille avec des enfants du quartier, des familles. On baigne vraiment dans leur quotidien. Des quartiers dont, d'ailleurs, ça c'est super important pour nous, il y a des écarts en fait sociaux, c'est-à-dire des personnes qui ont peut-être des situations beaucoup plus aisées, d'autres plus en précarité. On confronte un peu tout ça aussi autour de l'alimentation. Il en sort des choses vraiment très intéressantes, des habitudes alimentaires qui sont peut-être pas les mêmes. La variété culturelle joue un grand rôle.
Bien sûr.
Il y a des gens qui ont l'habitude de manger beaucoup de légumineuses, d'autres pas, par exemple. Du coup, ça permet de confronter et de mettre tout ça en fait, au centre des ateliers, donc des ateliers de cuisine, de
jardinage.
Donc là,
c'est des ateliers, hein. C'est vraiment apprendre à cuisiner ou...
Mettre la main à la pâte, à la terre. Voilà. De confronter en fait toutes ces connaissances qu'on a déjà de notre quotidien. Ça permet en fait une ouverture d'esprit et de se dire « Ah ben je connais pas en fait ce légume, ma mère elle m'en fait pas. » Mais en fait c'est parce que culturellement je ne le connais pas.
Je ne connais pas.
Mais je vais le découvrir aujourd'hui. Et du coup c'est des alternatives qui sont mises à jour pour ces enfants et ces familles.
Est-ce qu'à la fin de l'atelier ils ressortent avec autre chose comme référence que la Migros et la COP ou...
Oui, c'est sous l'académie. Mais après, l'idée, c'est pas du tout de rentrer en concurrence. Au contraire, on travaille de ce quotidien-là pour justement leur mettre en lumière les autres alternatives. C'est-à-dire que manger sain, c'est se confronter en fait à ces produits. C'est qu'est-ce qu'on en fait ? Comment je les cuisine ? Je donne du temps en fait. Je pense mon alimentation. Moi-même, je continue à consommer dans les grandes surfaces.
C'est pas incompatible.
Mais non, c'est pas incompatible. Et nous, notre but, c'est pas justement de dire il faut manger que local. De toute façon, on ne peut pas manger que local.
Bien sûr.
Financièrement, c'est pas forcément possible. Ou bien sur un certain temps. Et puis, on sait très bien que dans le public qui côtoie nos activités, clairement, certains ne peuvent pas en fait se le permettre.
Bien sûr, ouais,
d'acheter localement que du bio.
Un peu plus cher, effectivement.
Voilà. Mais c'est possible. C'est possible d'alterner, c'est possible de découvrir de nouveaux goûts, de pratiquer l'alimentation de manière différente.
Enfin, on entend pas mal de choses entre « je suis végane, je suis végétarien, il faut manger moins de sucre ». Comment on s'y retrouve dans tout ça finalement ? Est-ce qu'il y a un bon comportement à avoir ? Est-ce qu'il y a une bonne pratique ou est-ce qu'on peut prendre un peu de tout, c'est pour avoir quelque chose d'un peu plus sain ou... Quelle était un peu ta vision des choses là-dessus ?
Nous, chez Swiss Food Academy, il n'y a pas de dogme alimentaire. C'est-à-dire, un enfant, on ne va pas lui apprendre à devenir végane.
Végétarien ou végane, ouais.
Non, ce n'est pas du tout le but. Le but, c'est justement d'apporter une forme de variété et d'expliquer en fait tout cet écosystème, comment il fonctionne. J'ai un peu de réticence en fait avec ces régimes alimentaires. Pas que je les critique, mais je pense à la nouvelle génération, je pense aux enfants. Et il faut faire attention en fait. À chaque moment, à chaque étape de notre vie, on a des besoins
spécifiques.
On a besoin de protéines, on a besoin de choses au fil de l'âge.
D'apport nutritionnel.
Exactement.
En fait, tout simplement,
ouais. Si on décide en fait d'intégrer un régime alimentaire, il faut prendre la chose au sérieux.
Bien sûr.
Et il faut l'appliquer en conséquence. Si on arrête complètement de manger de la viande, il faut à ce moment-là proposer une alternative en protéines. Il y a beaucoup de solutions, mais moi ce que je constate, c'est que beaucoup de personnes font beaucoup de yo-yo. Nos enfants ont des besoins importants, spécifiques pour leur développement psychique, mais aussi physique. Donc il faut faire attention. Moi je pense que l'alimentation, il faut le prendre de manière très simple. C'est-à-dire de quoi on a besoin. On a des apports nutritionnels à respecter, il y a une forme d'assiette idéale. On se pose en conséquence, mais au-delà de ça, nous, ce qu'on essaye de remettre aussi dans l'assiette, c'est cette idée de plaisir et de se retrouver. On pourrait tout à fait imaginer que dans les familles, on pense les recettes ensemble, on aille faire les courses ensemble, on choisit les produits.
Ça devient un plaisir, mais à tous les niveaux.
En fait, il faut que ça devienne un programme. Je veux dire, dans notre quotidien, on est bien capable de programmer notre venue au travail, notre fitness.
On pourrait très bien programmer notre alimentation.
Nos activités culturelles, sportives, l'alimentation, je considère que ça fait partie de notre hygiène de vie. Et sans ça, on ne peut pas vivre.
Oui, on ne peut pas vivre. En tout cas, on ne peut pas vivre sainement ou durablement, on va dire ça comme ça.
Exactement.
Tu parlais d'assiette idéale. C'est quoi l'assiette idéale ?
Alors, l'assiette idéale, bah, c'est tout simple. C'est une assiette qu'on divise en trois compartiments. Bah, la moitié de notre assiette, c'est un gros apport en fruits et légumes. Hein.
Donc la moitié, 50%, c'est des fruits
ouais,
et des
ouais,
légumes.
Ouais. Notamment, l'année dernière, l'ONU a quand même fait un appel au secours, hein, en fait, à l'international. On s'est rendu compte que la nouvelle génération avait des carences énormes en fruits et légumes.
D'accord.
Il faut remettre un peu ces fruits et légumes au goût du jour.
Et au cœur de l'assiette, finalement.
Et au cœur de l'assiette. Les deux autres parties, bah, les 25 qui restent, bah, c'est nos protéines. Donc viande, poisson, légumineuses, et puis tout ce qui est féculent. Enfin voilà, tout ce qu'on connaît, les pâtes, les riz, les céréales. Après, je sais, je ne suis pas diététicienne, mais je sais qu'il y a une astuce toute simple, c'est celle de la poignée de main, parce qu'on pourrait se demander, mais c'est quoi ces quantités ? Forcément, bah, ma main n'est pas la tienne. On n'a pas le...
Bon, je vais manger un peu plus, visiblement.
Voilà, mais ça, c'est normal, hein, on est tous différents. Mais typiquement, une bonne poignée de main de fruits et de légumes, ben, c'est une bonne portion, donc il faut y aller. La viande, un peu moins.
Donc la poignée de main, si on devait donner un conseil aux personnes qui nous écoutent, pardon.
J'irais même une bonne, voire deux poignées en fait, parce qu'on peut y aller avec les fruits et légumes.
Ça correspond à une bonne portion de fruits et de légumes.
Ouais, et c'est ce que vraiment on a besoin tout au long de la journée. Après, je suis pas diététicienne, il faut penser à l'eau, faut varier tout ça. Mais il y a cette assiette qui existe, il faut la penser en conséquence quand justement on pense ses repas, ses listes de courses.
C'est faut avoir en cas, ces chiffres en tête. Donc, c'est 50% fruits et légumes.
Ouais.
25% tout ce qui est protéines.
Ouais.
Et puis, un autre 25% tout ce qui est notamment
féculents,
riz, pâtes. OK. Ouais. Voilà, pour les personnes qui nous écoutent, entendez bien, retenez bien ces chiffres. C'est important. Revenons maintenant à Swiss Food Academy.
Oui.
Tu nous as parlé d'activités au sein des quartiers. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous faites ? J'ai
vu
sur votre site, il y a le digital.
Ouais.
Voilà. Parle-nous un peu de tout ça.
Comme on est vraiment focalisé en fait sur ce quotidien des gens, forcément, il y a des gens qui n'ont peut-être pas le temps de venir en atelier.
Bien sûr.
Ou peut-être ça ne les intéresse pas. Donc en fait, on a imaginé différents outils pédagogiques. Là, on a le très concret avec ces ateliers, donc en cuisine, en jardinage ou en visite aussi, de producteurs. Donc ça, c'est très ponctuel. Hein. C'est par mois, c'est sur l'année scolaire et c'est vraiment pour les enfants de 6 à 12 ans.
Tout ce qui est atelier sensibilisation, c'est vraiment dédié aux enfants et par mois.
Des fois, c'est en duo parents-enfants lors de grands événements. Donc ça, on le fait
et
aussi.
Ça, donc s'il y a des parents qui nous écoutent, comment s'inscrire ? Ils s'inscrivent directement sur votre site, ils font une demande.
Alors ouais, on a un onglet, une page qui s'appelle Activités, et puis ils ont en fait tout le planning à l'année.
D'accord.
Là, on a des ateliers jusqu'à juin.
Rassure-nous, tout n'est pas complet.
Ça se remplit assez vite. Bon, on a des belles personnes en fait qui viennent sensibiliser les enfants, donc je pense que c'est ça aussi qui fait. Mais on a aussi cette particularité qu'on fait de ces moments-là des vrais rendez-vous dans le mois. Il se passe beaucoup de choses. À chaque fois, c'est un fruit ou un légume qui est mis en avant.
D'accord.
Il y a
donc
toute
une
pédagogie derrière. Exactement. On a aussi ce format qu'on fait pour les adultes. Ça, c'est de manière très ponctuelle parce qu'on est quand même assez concentré sur la nouvelle génération. Des fois, donc en duo parents-enfants. On a à cœur, en fait, de vulgariser, en fait, cette information qu'on disait tout à l'heure un peu trop diffuse.
Bien sûr.
Mais parfois même trop compliquée, je trouve. C'est-à-dire, il y a beaucoup de termes scientifiques. On décortique tout ça. On en crée, en fait, des contenus beaucoup plus simples, beaucoup plus accessibles.
Quand tu dis contenus beaucoup plus simples, c'est des choses que vous faites sur les réseaux sociaux, par exemple ?
Exactement. On a notre fameux calendrier de fruits et légumes de l'année. Donc, on en sort un par mois. Il est extrêmement détaillé. On met à dispo des recettes. Donc, si les personnes veulent cuisiner par rapport à ces fruits et légumes-là, ils peuvent nous contacter. Ils ont tout. Ils peuvent
nous
contacter.
Donc, ça, c'est des posts Facebook, Instagram, c'est ça ?
Ouais, LinkedIn. On a aussi une chaîne YouTube. Bon, là, c'est plus vidéo, mais typiquement, on a ça où on a des focus fruits et légumes. On parle d'un fruit pendant le mois, et puis on donne les bénéfices au niveau de sa santé, l'impact aussi environnemental, parce qu'il y a quand même une partie durabilité chez nous qui est assez forte. Et c'est des choses qui sont possibles aussi d'avoir à dispo avec son attel, l'ordinateur, enfin les réseaux sociaux. C'est un peu ça, on sait que la population est quand même ultra connectée. On relance cette année nos camps en alimentation, donc ça c'est un super format pour les enfants pendant l'été. On les a pendant une semaine, ils font du sport, ils jardinent, ils cuisinent, ils mangent bien sûr. Ils vont aussi en pleine nature, ils vont découvrir aussi les bienfaits de la nature, de la forêt.
Pour les parents qui nous écoutent, c'est une semaine où vous pouvez vous débarrasser, je plaisante, de vos enfants. Et ils vont en plus revenir avec plein de bonnes idées pour bien manger à la maison.
Ouais, puis des bonnes idées pour, voilà, pour cuisiner, puis pour partir aussi en pleine nature, découvrir un peu notre environnement qui est quand même superbe ici en Suisse. Et là, c'est l'opportunité aussi de faire ça en famille. On a un programme en fait pour le milieu scolaire, donc un programme éducatif. Là, on est dans quelque chose d'un peu plus réflexif. Dans les ateliers, dans les quartiers, on les appelle les petits chefs, les petits jardiniers, les petits détectives en alimentation. À l'école, on les appelle les petits enseignants. Donc okay. Là, l'idée en fait, c'est qu'ils s'imprègnent d'une thématique et puis durant la semaine, ils confrontent cette thématique avec d'autres élèves. Les autres apprennent les thématiques des uns et des autres.
Les autres, et chacun se nourrit de
voilà, donc ils deviennent un peu ces petits enseignants à l'école, mais en alimentation, ce n'est durable. Des conférences aussi, on en a fait. On participe volontiers aux tables rondes. Il y en a quand même beaucoup pendant l'année, durant les grands événements comme Alternativa, le Festival du Film Vert, Festiterroir. On est vraiment très proche du public. On partage avec eux aussi les retours en fait, qui nous ramènent du quotidien. On est quand même assez actifs.
Vous êtes
en fait,
super actifs.
Sur le terrain, mais aussi effectivement sur le digital. On a aussi fait des interviews d'acteurs en fait, de l'alimentation. On est parti à la rencontre notamment de M. René Longet, expert en développement durable qui est également parrain de l'association. On a rencontré la Fourchette Verte. On essaye aussi de mettre en fait, ces acteurs en lumière afin justement de
promouvoir finalement,
exactement, tout cet écosystème pour un public qui entend parler d'eux, mais voilà, qui découvre vraiment ce travail au quotidien de nombreux acteurs et actrices.
Ouais. Du coup, vous faites beaucoup de choses, il y a beaucoup d'ateliers, beaucoup de sensibilisation. Vous êtes combien chez Swiss Food Academy? Comment ça fonctionne?
On a un bureau, ben là on se trouve aujourd'hui, où on est entre 7 et 8 personnes. Des personnes qui sont salariées, mais également des personnes en stage. Beaucoup de personnes, en fait, viennent à notre rencontre, des gens qui recherchent, en fait, un projet qui a un peu plus de sens. Beaucoup de reconversions, de gens qui venaient de secteurs un peu rien à voir, hein, comme la finance, l'industrie, et qui, à un moment, voilà, ont envie de mettre à disposition, en fait, des compétences, qui ont envie, en fait, de participer à cette transition alimentaire, et notamment via la sensibilisation. À côté de ça, on a ce qu'on appelle un conseil consultatif. Donc, ce sont des personnes, en fait, qui sont spécialisées dans des domaines bien spécifiques que nous avons besoin, en fait, pour monter nos projets éducatifs. C'est des spécialités en éducation. Donc, on a des enseignants ou des animateurs pédagogiques. En santé, donc des diététiciennes, des diététiciens, médecins. Mais également en alimentation, comme des chefs culinaires. Et puis en développement durable, donc des spécialistes en agroécologie, permaculture, des jardiniers.
D'accord, donc toutes c'est vraiment un écosystème très complet finalement, avec un ensemble d'experts.
Oui. En fait, chez nous, l'alimentation saine et durable est vue de manière globale. C'est pas que la partie santé, c'est santé, durabilité, mais l'éducation est extrêmement importante. C'est même le cœur en fait de notre mission.
Le cœur du sujet finalement.
Exactement, ouais.
Et pour les personnes qui ne sont pas forcément experts, qui ne sont pas nutritionnistes, enseignants, ouais, comment on peut vous aider? Comment on peut vous rejoindre pour faire du concret?
Le reste des personnes qui font partie de l'association, donc, parce qu'on arrive quand même à une cinquantaine de personnes, c'est beaucoup de bénévolat, beaucoup de gens bénévoles de tout horizon qui ont en fait cette même envie que moi, en fait, de faire bouger les choses, d'accompagner les familles, d'accompagner les gens, de vulgariser, de mettre en lumière l'alimentation et que ça devienne vraiment quelque chose d'essentiel, en fait, dans notre vie. Ils peuvent tout à fait nous rejoindre pour de l'accompagnement en atelier, pour créer du contenu, justement, pour ces réseaux. Sur notre site internet, on écrit des articles. Il ne faut pas oublier qu'à partir du moment où on fait de la cuisine et du jardinage et qu'on est avec des enfants, ça demande une logistique énorme. On a beaucoup de matériel, on se déplace beaucoup. Swiss Food Academy n'a pas un lieu où on reçoit les activités. On se déplace dans les quartiers, on se déplace chez l'autre. Donc, les bénévoles jouent également un grand rôle dans toute cette coordination-là.
D'accord. Donc, si vous êtes motivé, vous avez de l'énergie à revendre, vous pouvez contacter Maria. Elle sera un plaisir de vous trouver
avec plaisir
un job pour les prochains ateliers. Quels sont les grands projets 2022, finalement, de Swiss Food Academy?
Il y a quand même cette deuxième édition du camp en alimentation qui a été une belle réussite l'année dernière. Donc ça, on va le relancer. Puis je pense que c'est un format qu'on va garder. C'est une belle immersion pour les enfants. Les parents étaient enchantés aussi. Ça, on va le remettre à nouveau cet été, puis à l'automne. Sinon, vraiment, nouveauté, ça va être la duplication d'une partie de nos projets pour la Suisse alémanique. Swiss Food Academy se balade, mais encore un peu plus loin. On va aller jusqu'à Zurich. On est déjà bien accueillis sur place. On a obtenu du soutien, donc on est ravis.
L'antenne à Zurich va ouvrir là d'ici assez prochainement finalement.
En fait, on est en pleine préparation pour 2022 et puis ouais, c'est dès 2023 et 2024. Dans une logique aussi de toujours faire dans l'innovation et puis de toucher beaucoup plus de familles, on va lancer notre premier spectacle en fait autour des fruits et légumes. On a la chance d'avoir un metteur en scène qui nous a créé en fait tout un concept culturel. Et l'idée en fait, ça va être de créer une enquête participative où les enfants vont pouvoir aussi jouer un grand rôle, comme on aime tellement les mettre au centre de nos actions.
Donc c'est un spectacle itinérant avec la thématique des fruits et légumes au centre finalement.
Exactement.
Et puis participatif, donc les enfants vont pouvoir être acteurs du spectacle.
Ouais.
Et ça, c'est quel horizon ?
Si tout va bien, on le démarre à la rentrée 2022. Donc en fait, on a déjà tout. Et là, ce qui nous manque, c'est vraiment les soutiens en fait. Soutien, comment financer un peu ce projet. Ce premier semestre, on veut s'assurer qu'on a toutes les données, enfin tout est bien...
Tout est bien organisé pour
ouais.
Lancer sur le deuxième semestre.
Exactement.
Super. Merci Maria en tout cas pour ta participation dans ElvéTalk. Swiss Food Academy, donc c'est le nom de ton association. Votre mission au sein de l'asso, c'est éduquer les jeunes au bien manger. ElvéTalk, c'est fini. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. À bientôt.